Radio Silence, bonsoir ou bonjour. Nous sommes le 27 août, samedi. Vous écoutez Radio Silence, flash sur le monde par Élise Mbok depuis Yaoundé. Et nous allons parler de l'Amérique. Vous savez, flash sur le monde, tel que le mot le dit, le titre de l'émission, c'est que, quel que soit le point où nous nous trouvons, nous nous intéressons à l'évolution du monde parce que cette évolution impacte le système qui est global. Et peu importe où je me trouverai, l'actualité internationale va être l'objet, le principal, comment dirais-je, le focus de l'émission et de Flash sur le monde qui porte bien son titre. J'avais pensé à faire une théorie, vous savez, sur la notion de progrès. Je me disais que reste-t-il de la notion de progrès, du progrès. Et c'était, ça m'a paru un peu trop théorique parce que c'est vrai, aujourd'hui on ne parle plus du progrès, hein, du tout. C'est un mot qui a disparu d'ailleurs du vocabulaire et pour cause. Ce sont des omissions comme ça qui disent très bien que nous ne sommes plus dans ce projet de progrès de l'humanité et que nous sommes dans quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est quoi? C'est un peu, vous savez, nous passons un peu, quelqu'un avait écrit un livre, L'ère du vide, et ça s'adressait... Bon, c'est un français, hein, là j'ai le nom, des fois j'ai fait des sites comme ça, et puis je ne suis plus tellement dans le domaine, bibliographique, c'est dommage, j'ai les titres qui arrivent et parfois pas les noms qui arrivent tout de suite. Et l'ère du vide, c'était plutôt une critique sociale comme ça en France sur... ces jeunes qui grandissaient sans projet et qui avaient une violence aussi, qui manifestaient une violence sans projet apparemment et sans idéologie derrière. C'est ce que la société semblait refléter dans les années 80 où on fait ce genre de critique, mais c'est parce que on regardait les choses comme on dit, hein, de face, et on regardait pas un relief, si on peut dire comme ça. Regardez pas un relief. Là, quand j'ai dit un relief, je pense beaucoup aux peintres, les impressionnistes. Et justement, c'était déjà, ça semble très plat, mais en même temps, c'est un relief en fait. Et bon, nous avons donc un relief. Nous vivons une forme d'air du vide. L'air du vide, donc on ne comprend pas très bien. Alors je me suis dit, mais comment je peux reparler de ceci, de la fin du progrès, comme énoncé déjà, et comme, en même temps, vous savez, en politique, lorsqu'on dit des mots comme ceci, le progrès, c'est un programme en fait, c'est une vision qu'on a de ce qu'on va faire, mais si le progrès n'existe plus, mais qu'est-ce qui reste à la place alors? En fait, j'ai dit, peut-être une petite histoire, et j'ai été servi. Je suis toujours servi, hein. Moi, quand je vais faire une émission, je n'ai aucun a priori, je commence comme ça. La semaine, je me demande, je fais quoi, et puis je suis servi, comme ça, par le hasard, et puis aussi par la pensée, parce que les formations arrivent, encore faut-il que vous la déployiez comme un relief, voyez, comme un tableau. Alors, j'ai pensé à... un événement qui avait secoué le monde, c'était en 1989, par un auteur qui parlait de la fin de l'histoire, Samuel Fukuyama. Et ça avait été un tollé parce que le mur de Berlin étant tombé, il était évident que ben, l'Amérique avait gagné, le capitalisme avait triomphé, nous devrions vivre une société de paix, la démocratie allait régler tous les problèmes à travers ses principes. Et donc on était entré dans l'heure du bonheur finalement, ce bonheur tant espéré et annoncé par les progressistes et les humanistes. Et dans le même temps, quand même, il émettait le doute du fait que ben, peut-être qu'à un moment donné aussi, on va se lasser de cette paix installée définitivement et que peut-être on retrouverait comme ça le retour. On reverrait une nouvelle marche de l'histoire dans le sens contraire. Bon, la fin de l'histoire, ça avait été toute une histoire, justement, si je peux dire ainsi. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est exactement le contraire de ce qu'il avait prévu, enfin l'histoire. Et c'est plutôt Orwell qui a gagné, lui qui a écrit en 1948. Hein, vous voyez, les années passent, mais les choses, les prophéties ne se réalisent pas forcément. Et celle de 1948 s'est réalisée, alors que celle de 1989 de Fukuyama ne se réalise pas vraiment. Puisque, bon, on va pas. Quand on dit Fukuyama, fin de l'histoire, on dit automatiquement choc des civilisations en face, parce que justement, la contre-thèse de Fukuyama, de M. Samuel Huntington, consistait à dire que oui, ben, l'histoire va continuer par le clash des civilisations, notamment la civilisation Macworld versus Jihad, notamment la civilisation arabe qui allait créer beaucoup de problèmes par la suite à Macworld. Mais on a vu que le djihad, Macworld l'a dompté, l'a adopté comme un agent, comme un instrument, et que ce qu'on annonçait aussi, franchement, on n'a plus de clash de civilisation aujourd'hui, parce qu'avant, quand on disait les terroristes, on pensait Bin Laden, oui, les gens de, comment on dit, le monde arabe qui embête tout le monde, mais c'est plus ça, le terrorisme est devenu financier, le terrorisme est. Commercial, le terrorisme est politique, bien sûr, le terrorisme en tant que tel n'a même plus de sens. La colonisation, c'était déjà du terrorisme, voilà. Et bon, j'ai lu deux articles aussi. Alors, à la suite de commencer par réfléchir à la notion de progrès, qu'est-ce qu'elle devient, j'arrive à un article très intéressant d'un certain Carlson, de Fox News, qui écrit un article qui dit le FBI travaille pour le Parti démocrate. Ah, ça c'est à la suite du raid du domicile du président Trump qui a été visité, enfin qui a été, comment on va dire, j'ai pas dit violé parce que le FBI est une institution, mais franchement, ils sont rentrés comme ça en force, disant qu'ils avaient un mandat de fouiller et que, il y avait de fortes chances que M. Trump, le président, avait pris des documents qu'il ne devait pas prendre de la Maison-Blanche et qu'il fallait qu'il les récupère de force. Bon, ce qui est déjà étonnant, c'est qu'on le fait quand il n'est pas là, c'est un. Et de deux, le FBI est donc depuis très critiqué, et d'où cet article, et qui rappelle qu'en 1970, donc là on revient dans les histoires maintenant de politique internationale pure et dure, en 1970, le département d'État américain publiait un rapport tous les ans sur les dépenses en armement de leur, enfin de l'industrie militaire, si on peut dire comme cela. Et ce qui a été vendu à l'étranger, c'était tous les ans, c'est le département d'État qui publiait ce rapport-là. Et ça a été le cas depuis 50 ans, sans discontinuer, malgré les problèmes, enfin les guerres très controversées de l'Irak, de l'occupation, de l'Afghanistan. Il y avait toujours, toujours et toujours ce rapport publié. Et cette année, justement, M. Biden ne publie pas. Enfin, depuis qu'il est là, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport publié en ce sens, alors que, surtout en ce moment, il est en train d'envoyer des armes, de fournir des armes aux oligarques de l'Est, comme il le dit, le journaliste. Donc, il y a un problème déjà de non-transparence. Justement, le rapport s'appelait visait la transparence dans la vente des armes. Alors, dès lors que vous avez un gouvernement qui vend des armes, qui les produit des gens en votre nom, des citoyens qui les vend et qui ne vous dit pas combien il a vendu, à qui il a vendu, pour quelle mission. Il y a quand même un souci parce qu'il y a quand même quelque chose qui relève de la responsabilité qui n'est pas qui n'est pas là, quoi. Et donc après, quand on parle de secret d'État que Trump a embarqué chez lui, il est normal que le doute s'installe et qu'on se dise, mais là, pas d'accord, pas d'accord, comment les choses ont été faites? Le FBI a été poursuivi, poursuivi, poursuivi. Et le ministre de la justice, le ministère de la Justice s'est défendu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il sorte, il fallait même, il était question qu'ils mettent sur la place publique le produit de leur, de ce qu'ils ont récupéré chez M. Trump, le butin, quoi, en fait, qui confirmerait les thèses selon lesquelles ils avaient les documents. Et bon, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, ils ont publié ça. Mais sur les 8 pages, il y a beaucoup de documents, enfin un rapport, ils ont réécrit tout, ils ont barré beaucoup de choses, de documents. Non, ça ne peut pas être publié en tant que tel parce que ce sont des secrets d'État. Bon, le secret d'État, vous savez, c'est ce qui est, c'est la limite à l'information gouvernementale. C'est-à-dire que vous pouvez tout demander, mais pas tout, pas ce qui est secret d'État. Et du coup, sont eux qui décident ce qui est secret d'État ou pas, et vraiment la transparence, on ne peut pas l'avoir. Alors, le FBI, ça tombe bien, parce que Carson Tucker continue en disant que, mais de toute façon, le FBI hein, est là pour faire, pour empêcher, enfin, pour filtrer l'information qui doit arriver aux gens, puisqu'on a comparé ce raid en se disant, mais le fils de M. Biden, Hunter Biden, avant les élections, avait un problème de business qu'il faisait avec son père, le big guy, et qui a été retrouvé chez quelqu'un dans un laptop, quoi. Et on n'a jamais pu inspecter ce laptop. Le FBI a plutôt censuré l'information avant les élections. Et Facebook a été convoqué, et le patron de Facebook qui dit oui, ben nous on nous a dit de pas publier ce genre de choses, informations sensibles, parce que ça s'apparentait à la propagande russe. Voilà, rocha, 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 bon, vous savez tout ça. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce qui va suivre, qui est alors vraiment super intéressant, pas parce que ce que Carl Turkson dit, c'est vrai, parce qu'il dit que en gros la démocratie est menacée. Mais ce que M. Farrakhan révèle, le docteur Farrakhan, c'est quand même du lourd, puisqu'il dit, il fait une histoire vite fait, il dit, le FBI, en gros, le FBI est une organisation criminelle. Alors, quand on dit ça, les gens disent, oula, 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 il dit, oui, mais c'est une organisation qui a été créée pour la sécurité des gens et qui finalement se retourne contre les gens, au point même qu'aujourd'hui, les gens ont tellement peur du FBI, alors que le FBI devait les protéger. Alors, il raconte l'histoire. On raconte l'histoire en 1912. 1912, le président américain Woodrow Wilson est élu président des États-Unis. 1913, il crée la Fed, la Réserve fédérale. Et la même année, il crée un institut pour régler les impôts. Et la même année, il crée, se crée le FBI. Bon, des choses très intéressantes, mais qui nécessitent quand même de passer par une brève histoire où il nous raconte quand même que qui est derrière la Fed, qui est derrière la Fed, parce que la Réserve fédérale n'appartient pas à l'Amérique, elle ne dépend pas du gouvernement, elle est indépendante. Et comment se fait-il qu'elle soit indépendante? C'est parce que M. Rothschild, le patron de M. Macron, président français, parce qu'il a été là-bas, enfin le patron, c'est pas ce Rothschild-là, c'est sûrement peut-être l'un des fils, avait 5 fils. Il est en Allemagne. Il a envoyé ses enfants, un fils en Angleterre, un fils en France, un fils en Italie, un fils en Australie, et il est resté en Allemagne avec un fils pour mettre en place le système financier tel que nous le connaissons aujourd'hui et probablement monétaire. Mais ce que M. Farrakhan, le docteur Farrakhan, veut dire, c'est que par la suite, donc ils ont créé Banque de France, Banque d'Angleterre, Banque de partout. Toutes les banques centrales, apparemment, ne sont pas des banques indépendantes, ce sont des banques qui appartiennent à la famille Rothschild et compagnie maintenant, parce qu'il y a des gens qui se sont ajoutés à cela. Et le problème donc du banquier, parce que Rothschild avait dit que lui, il s'en fout de qui on met au pouvoir, mais pourvu que lui fasse la monnaie, parce que c'est ainsi qu'il contrôle les nations, et contrôlant les nations par la monnaie, il contrôle le monde. Tout simplement. Alors, quand on parle du nouvel ordre mondial aujourd'hui, c'est un peu trop tard. C'est depuis que c'est fait. Et ces choses-là sont faites avant la Première Guerre mondiale. Du coup, quand la Première Guerre mondiale arrive, le président Wilson, il n'est pas trop dans la guerre. Il reste à l'écart. L'Amérique reste à l'écart. Et finalement, on ne sait pas trop comment. Elle est poussée, à entrer en scène. Pas parce que tout ce qu'on a dit, mais pour des raisons alors vraiment maintenant de manipulation de la monnaie, c'est le début de ce système que nous vivons. L'Amérique entre en guerre en 1917, je crois, lorsque au début du second mandat, non, 1912, 5 ans, oui, au début du second mandat du président Wilson, l'Amérique entre en guerre et quand elle entre en guerre, quel est le but? Le but, évidemment, c'est de venir sauver l'Europe et tout. Mais en fait, derrière, il y a déjà comment on va dire, une photographie de ce que va être la finance plus tard, c'est-à-dire le système financier plutôt, c'est-à-dire l'idée que la guerre n'est pas ce qu'on croyait, c'est-à-dire qu'on va sauver les gens au nom des principes démocratiques, de la liberté des peuples, etc. Toutes ces idéologies très belles, mais la guerre est vraiment une occasion, un système de manipulation de l'argent. Et comment ça se fait ça? C'est justement tout ce qu'on disait là tout à l'heure sur l'armement qui doit être clair, mais qui ne l'est pas. Et comment on manipule la monnaie, c'est que l'Amérique a été obligée, lorsque monsieur le président Wilson arrive en 1912, l'Amérique a endetté de 1 billion, ah, le billion si c'est le milliard des milliards, je ne peux pas lui dire ça, 1 000 milliards, c'est ça, de dettes. Mais quand il part à la fin de son mandat, du deuxième, en 1920, l'Amérique est à... comment il dit 800 fois la dette. Vous voyez, multiplier la dette multipliée par 800, parce que pour aller en guerre, il faut emprunter de l'argent. Et quand vous empruntez l'argent, vous empruntez à la dynastie des Rothschild et vous empruntez avec des intérêts, parce que c'est la dynastie qui gère les banques centrales. Donc c'est comme ça que la dette est née et en même temps, c'est ainsi que naît le service des impôts. Parce que on imagine, donc on reprend au Parti communiste, donc à Karl Marx, ce qu'il indiquait en parlant de l'impôt progressif, parce qu'effectivement, cet impôt progressif, cet impôt, c'est lui qui permettra de payer la dette et ses intérêts. Vous voyez, la dette, elle naît à ce moment-là. Et on n'est plus dans la guerre, hein. On n'est plus, enfin, la guerre n'est qu'un prétexte. La guerre n'est qu'un prétexte pour se faire encore plus d'argent et les pauvres vont mourir pour rendre les riches encore plus riches, ce qui est extraordinaire. Alors, il cite les familles qui ont organisé ces systèmes comme ça, pas diabolique, mais parce que franchement, presque satanique, puisqu'on dit que dans le Coran, il est interdit de. Les banques n'ont pas de. Doivent pas prêter l'argent avec intérêt. Donc maintenant qu'il y a des intérêts, et en plus des intérêts exorbitants, ça devient un peu satanique au passage. Je pense ici, j'ai une pensée ici pour monsieur l'écrivain Salman Rushdie, qui a été poignardé et tout. C'est vrai que les versets sataniques, c'est pareil dans ce que j'allais dire au début quand je disais le thème du progrès. Les versets sataniques comme titre, c'est forcément ce système aussi. Qui permet aux écrivains d'avoir ce genre de titres qui sont très provocateurs, parce que c'est dans la ligne du clash des civilisations, vous voyez. Donc si ce clash n'existait pas en tant que tel, il fallait le créer. Les versets sataniques font partie de cette première motion, cette première façon, cette première confrontation, vous voyez, face à face, vraiment, entre le monde arabe et le monde occidental, Macworld contre les djihad. Et bon, ça n'a pas échappé, ben, Salman Rushdie, il est sous le coup d'une fatwa depuis. Donc, le système crée comme ça des actes de provocation, parce que, franchement, sur un plan strictement religieux, il n'est pas convenable de critiquer une telle ou telle région sous la base du fait que la vôtre serait plus clean encore, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire après. C'est une parenthèse. Donc on revient à Dr. Farrakhan et il dit, ceux qui ont créé donc le système financier aujourd'hui, il cite quelques noms, JP Morgan, Rockefeller, Loeb & Kuhn, Shift, les Warburgs, ça je crois que c'est des Britanniques, ça, et les Rockefellers. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, tel qu'il dit, c'est plus l'histoire d'ethnicité. Hein. C'est vraiment un conglomérat qui on parle que d'argent, on parle que d'argent. Et en 1918, l'Allemagne perd la guerre. On croit que ça s'arrête là, mais ça s'arrête pas là. Parce que, entre-temps, Hitler arrive. On fait un saut dans l'histoire, hein, on fait un saut dans l'histoire. Et entre-temps aussi, le FBI, depuis, se fiche complètement, contre-fiche de la loi. Parce que, voilà, c'est le FBI n'a pas été fait pour ce qu'on dit protéger les civilisations, les citoyens, mais pour protéger le système, en fait. De protéger, ça veut dire assurer une sécurité très, très, très rapproché auprès de tous ceux qui pourraient venir créer une rupture du système ou créer des failles ou critiquer. Donc, ces gens-là, on les élimine. Voilà. Donc, et pour aller plus loin, donc, on fait aussi, on filtre l'information, une information qui serait de nature à créer donc ces effets de rupture. Et non, on n'accepte pas. Du coup, on prend en charge les médias. Oui, proche des médias. Alors, Monsieur Farrakhan va lister par la suite les leaders noirs qui ont été tués par le FBI. Et il parle de ceux de Black Panthers, il parle de Martin Luther King. Il en cite beaucoup, hein. Alors, le cas de Martin Luther King est exemplaire. L'exemplaire parce que le FBI avait acheté carrément l'hôtel dans lequel où le docteur King devait être tué. Ils ont installé les micros de partout, les caméras de partout. Ce dont je vous parle tous les jours, surveillance 24 heures sur 24, pour bien régler leurs coûts. Donc, avec ce genre de surveillance, il est évident que le FBI est là pour s'assurer un pouvoir absolu. Et après, il demande, mais quand on dit. Alors quand Hitler arrive, Farrakhan, c'est quelqu'un qui est très intéressant et très cultivé. Et d'ailleurs, il dit que ce qu'il dit là, ce n'est pas des révélations. Ce sont ses travaux de recherche, de tout ce qui existe dans les bibliothèques, qu'il dit. Lorsqu'on veut arrêter la guerre civile aux États-Unis, ce n'est pas possible, parce que le cartel financier, décrit comme il l'a dit là, finance les deux côtés. On finance ceux du Nord et on finance ceux du Sud, en telle sorte que ça devient très difficile d'arrêter la guerre. Et que ça, c'est le genre de choses qu'on a vu en Angola, qu'on a vu en Afrique du Sud, qu'on a vu un peu partout où on finance les deux côtés de la guerre civile pour que cela ne s'arrête jamais. Le genre de pratique qui conforte la domination permanente du FBI et tout ce qui va à contre-courant de la démocratie, de la liberté, du progrès, tout ce que vous voyez. Donc, il rappelle cela. C'est intéressant parce que ça fait partie de ce qui définit le monde aujourd'hui où vous avez les mêmes qui soutiennent les chefs d'État africains et c'est les mêmes qui soutiennent les ONG. Hein. Vous voyez, c'est toujours la même chose, en sorte qu'on arrive au mieux à un système bloqué et au pire, à des turpitudes incroyables parce qu'il parlait en 1995 et il demandait au public vous vous rendez compte. Alors la dette, 800 fois 1000 en 1995, oui, la dette contractée pour vous en 1900, lors de la guerre 1917, et qui en 1920, à 800 fois le 1000 milliards, bon, plus ça allait depuis, vous allez la payer toute votre vie, et vous la payerez à qui? Oh, à la dynastie Rothschild qui détient tout. Et c'est ainsi qu'on arrive à s'assurer le pouvoir éternel et infini sur les gens et à devenir Dieu à la place de Dieu. Oui, et ces choses-là, on ne le dit pas, et surtout qu'il souligne. Alors après, il demande, mais qui a financé Hitler? Les choses qu'on ne dit pas, qui a financé Hitler? Alors c'est le Warburg. Attendez, 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 qu'ils ne vous disent pas des conneries. Peut-être pas les Warburg directement, mais ça fait partie du même système. Les Rothschild, je crois, sûrement, qui ont financé. En fait, c'est deux. Comment dire? Oui, c'est le Warburg et Rothschild qui ont financé Hitler. Et pendant que la guerre faisait rage, qu'il y avait ces camps de concentration, Warburg se baladait. Ils allaient dormir dans des hôtels de luxe. Bon, et on pouvait dire quoi? On pouvait rien dire parce que si vous arrivez au point où vous financez un système de criminalité, parce que Hitler, il est venu se venger pour récupérer tout ce qui a été volé à l'Allemagne. Si vous financez, c'est un peu ce que les Africains font, le crime de votre peuple, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est plus que satanique. Vous voyez, quand on vient dire les versets sataniques, c'est trop facile. Et effectivement, dans le système tel qu'il se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. Tous les chefs d'État, tous les peuples, toutes les nations, ont carrément, on dit, soldé le peuple à l'élite financière qui gère le peuple comme elle veut. Et après, vous avez Monsieur Macron qui va vous dire que c'est la fin de l'insouciance et le début, l'ère d'abondance, c'est ça, de l'abondance est terminée. Maintenant, c'est vraiment pur et dur. Faut être bon. Les politiques d'austérité. Parlons-en. Les politiques d'austérité. On connaît ça depuis Monsieur Jospin quand il est arrivé, Premier ministre. Politique d'austérité. Il fallait se ceinture, fallait se serrer la ceinture. Peut-être même depuis Monsieur Rocard. Bon, quand on revient maintenant, ça date. Hein, quand on revient maintenant, nous reparler de l'ère l'abondance est finie. Il n'y a plus d'abondance depuis. Parce que ce système que j'essaie d'expliquer, qui a ravagé le monde et ravagé le travail, et qui d'ailleurs, contre toute attente, parce qu'on a combattu le communisme et ses idées théorisées par Karl Marx pour lui reprendre l'impôt progressif, par exemple, et le docteur Farrakhan fait bien pour d'expliquer que c'est ça qui fait que les Républicains, quand ils se veulent plus populaires que les démocrates, ont dit qu'ils font du populisme, en fait, ils n'en font pas. Ils veulent vraiment remettre, sortir le gouvernement de ses axes, de ses axiomes ou de cet axiome socialiste, ou de ce paradigme socialiste, j'en sais rien, mais cet axiome-là, ou axiomatique, je ne sais pas comment le dire là, de l'impôt progressif, en fait, l'impôt. Va avec la dette. Plus la dette va vous tuer, plus l'impôt vous tuera, et plus les riches vont s'enrichir par le système qui est expliqué, comme je viens de vous le traduire de cette façon-là. Donc, vous pouvez regarder sur YouTube Rothschild and Company, et vous pouvez aussi regarder l'article de Fox News de Tucker Carlson qui va plus loin aussi dans des explications, mais qui n'est pas vraiment, ce sont pas trop des explications financières, c'est vraiment politique ce qu'il fait. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai vu, on va finir là par l'art. Le professeur Onoma Toundé, c'est quelqu'un égyptologue qui explique, qui essaye de faire de l'éducation, de la pédagogie sur l'histoire des Noirs au temps où ils rayonnaient, de façon à ce que ça puisse peut-être inspirer, réinspirer les Noirs et les remettre en marche. Il a parlé de quelque chose, vite fait. On lui a posé une question sur l'art. Question sur l'art. Et notamment, on se demandait pourquoi. Alors, il a expliqué. On va laisser la question tomber. Il a expliqué que l'art nègre, les objets volés ici par les colons, sont exposés dans les musées principaux qui sont, comme par hasard, situés au cœur des villes. Au cœur des villes. Paris, Londres, l'Amérique. Alors pourquoi cela? C'est parce que selon lui, c'est l'objet d'art africain en tant que tel. Bon, c'est un objet d'art hein, qui a l'air très banal d'ailleurs. Mais cet objet d'art, il est dans l'ordre de la thermodynamique. Quelque chose comme dynamique, quelque chose comme, il aurait quelque chose comme une vibration électromagnétique. Waouh! Que possède cet art nègre qui renvoie un peu comme ça à quelque chose qui ça dit, ces statues-là émettent des fréquences. Ils ont une fréquence qui est positive pour les 10 musées, donc on les a installés. Il faut être initié, il faut être initié. Et il explique que pour être initié, parce qu'aujourd'hui vous avez constaté que les grands artistes, on ne voit plus, même comme on nous dit que Monsieur Hunter, le fils de Hunter, est peintre, il fallait jeûner, parfois beaucoup, il fallait observer la lune ou le ciel beaucoup, et il fallait en fait, observer la lune, c'est se poser en position, vous méditez quoi en fait, c'est ça? Et vous essayez d'entrer en contact avec le cosmos, et de préférence, j'ai parlé des impressionnistes au début, se poser quelque part tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de laisser comme ça la créativité, l'art, c'est-à-dire le mystère se produire et venir vous saisir là, cet instant où vous venez tout le temps. Et c'est ça qui fait que vous pouvez devenir un artiste quand vous avez passé ces étapes-là. Vous avez traversé, chacun à sa manière, soit vous jeûnez beaucoup, soit comme Gandhi, soit vous observez, vous êtes un observateur de la nature, vous êtes là, la lune et tout, l'astronaute, et soit vous revenez, et vous avez Cézanne, le peintre qui a peint la montagne Sainte-Victoire, il est revenu, il est revenu, il a peint de toutes les façons possibles pour sortir un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre impressionnants. Donc, quand on rentre dans cette spiritualité, comme on dit, et dans ces secrets non dits aussi, parce que on essaye de minimiser l'art, mais l'art, c'est quelque chose de très important qui a porté les civilisations pendant longtemps. Au Moyen Âge, c'est l'art qui fait la beauté. Enfin, au Moyen Âge, au Quattrocento, comme on dit, sorti du Moyen Âge, c'est l'art qui relance la civilisation pratiquement et carrément d'ailleurs. Et on a perdu cela, on a perdu la notion des vibrations, la notion, tout ce qu'il dit, hein, des fréquences, la notion de la thermodynamie, toutes ces choses-là, on les a perdues. On les a perdues parce que le fric, le nouveau monde dont on parle, qu'on découvre, mais qui existe depuis, a effacé tout cela. Pour nous ramener dans un matérialisme pur et dur, ça aussi ce sont des concepts philosophiques qu'on n'apprend plus beaucoup aujourd'hui. La philosophie est déclassée, on dit que c'est hégélien. Bah, et on a, c'est ce que je dis, l'ère du vide qui, on tourne comme ça, on n'est plus dans le progrès, parce que le progrès ça venait aussi avec l'art. Il y a pas que, c'est même la spiritualité qui tirait le progrès aujourd'hui. On ne sait plus. On a le docteur Fauci, qui était le conseiller du président, monsieur Covid de l'Amérique, qui va être poursuivi parce qu'il a compris peut-être que les démocrates vont perdre l'élection qui arrive là, en novembre, demi-mandat. Et alors, on va lui poser des questions sur parce que il y a eu trop de choses qui n'ont pas été faites, que le professeur Eric Raoult essayait de pas de dénoncer, mais de dire à sa façon, c'est-à-dire attention, attention, toutes les mesures qu'on prend. Donc, il a annoncé qu'il va démissionner et que ça prendra effet en décembre, forcément, parce que pour lui, il ne fait aucun doute que si les Républicains reviennent, parce qu'il a induit le président. C'est curieux, hein, monsieur. Le docteur Fauci, il est toujours le conseiller du président Biden. Il était celui du président Trump, mais auprès du président Trump, il jouait les agents doubles, en fait. Tout comme le procureur qui a ordonné la fouille de la résidence du président Trump. On voit qu'il finançait Obama, c'est quelqu'un qui est démocrate depuis. On se pose beaucoup de questions sur l'impartialité de la justice dans ces conditions. Mais le docteur Fauci, il n'a pas pu dire, on avait évoqué justement le fait qu'il aurait eu des actions là-bas du côté du laboratoire Wuhan, ce qui ferait que il ne voulait pas vraiment travailler pour qu'on retrouve les traces et l'origine du Covid. Il y a un blackout dessus. Ne pouvant pas remonter au virus pour savoir ce que c'était, effectivement, on allait comme ça, et sa responsabilité dans les lockdowns. Les couvre-feux, on va dire comme ça, parisiens, et dans toutes les décisions qui ont été prises, est telle que il va être l'objet d'enquêtes très profondes parce que ça a déstabilisé toute l'économie et on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui où M. Biden est obligé d'aller à la guerre pour ce que le docteur Farrakhan a dit précédemment. Pour se faire manipulation de l'argent. Vous voyez? Donc, on revient toujours à tourner ces choses-là, mais sauf que il s'est pas vraiment adapté. Il n'a pas vu que la Russie, ce n'était pas la Libye, la Russie, ce n'était pas l'Irak, ce n'était pas l'Afghanistan, ce n'était pas, vous voyez, ce n'était pas les petits pays où il allait, et que la Russie, entre-temps, s'était développée, qu'elle avait déjà, comme ça, un pré carré fort et solide, et qu'elle pouvait geler le gaz, qu'elle pouvait geler le blé, qu'elle, vous voyez, vraiment dérangée. Et ça, ce n'était pas prévu parce qu'ils sont partis avec la toute puissance de Dieu comme militaire, puisque j'ai le pouvoir de faire l'argent. Je sais que si je passe par la guerre, donc le fait que l'Amérique n'a pas arrêté de faire des guerres, si je passe par la dette et s'endettant de façon brutale, si je passe par l'impôt, je vais finir par retomber sur mes deux pieds. Vous voyez comment l'idéologie satanique de ce complexe militaro-financier finit par bouffer le monde. Et Dr Fauci va répondre, pas de tout ceci, mais de la captation de l'hôpital, des politiques de santé publique par des lobbies, par justement des personnes, parce qu'aujourd'hui, à côté de tout ce niveau financier, on a les banquiers qui sont venus avec Wall Street, et puis on a ce qui est venu après, c'est les seigneurs de la nouvelle technologie, de l'informatique, Bill Gates et tout, qui gèrent l'OMS. Bon, laquelle OMS, si tout se précise, pourrait avoir des problèmes de poursuites judiciaires, parce que justement, cette histoire de Covid, on ne sait pas si le docteur Fauci va dire les choses. Mais c'est vraiment la figure, après la guerre physique, on a eu cette guerre bactériologique qui a enrichi, vous savez, pendant le Covid, Amazon a fait des chiffres énormes parce qu'on commande sur place beaucoup, on vendu, c'est toujours, vous voyez, la même logique, on passe par la guerre pour enrichir toujours les plus riches et appauvrir les plus pauvres, alors que les pauvres croient qu'ils sont dans des politiques de santé, de progrès, de développement, de sanitaire, de sécurité et tout, mais en fait, c'est les dindons de la farce. Bon, franchement, l'éclairage par le docteur Farrakhan, il faut le regarder sur YouTube, vous comprendrez tout le reste. Vous comprendrez tout le reste si vous pouvez encore avoir la liberté d'avoir, on dit, l'esprit critique, parce que ça, on apprend plus à l'école, l'esprit critique, on vous apprend, je ne sais pas quoi. Tout le monde a le bac maintenant, tout le monde a les examens. Bon, vous avez 7, vous passez. Le Mali. Ah voilà, le Mali, on finit là, vraiment. Le Mali vient de rompre vraiment, il est en voie de rupture définitive avec le néocolonialisme et ils viennent de créer une usine, pas une usine, une industrie qui leur permettra eux-mêmes d'exploiter leur or, vous voyez, toute leur richesse du sous-sol, eux-mêmes, 100% appartenant à l'État. Bien sûr, on fera appel à des experts de la, je sais pas comment on appelle ça, la géo, géologie, géotourisme, ce que vous voulez. Mais ce qui est bien, c'est de dire que c'est l'État, comme le colonel Kadhafi le faisait, c'est le Mali qui prend donc le relais du colonel Kadhafi. Bon, des actions comme celle-ci dépassent tous les mots qu'on peut dire et les discours sur la critique de la France-Afrique. C'est ça qu'on attend de l'Africain pour qu'il essaye de se mettre. Bon, évidemment, le système Rothschild va le rattraper. Quand on dit Rothschild, c'est générique. Hein, vous avez vu les noms que Farrakhan a prononcés. Il va être rattrapé, mais quand même, ça ne sera pas pareil. Il y aura une petite mainmise parce que la démocratie nécessitait la diversité, ça nécessitait, comme M. Chirac disait si bien, tout en étant lui aussi compromis jusqu'au cou, ça nécessitait un dialogue des civilisations et des cultures. Il n'y a pas de dialogue, il y a un anéantissement complet, et ça, c'est le dernier acte qu'il y a eu aux Nations Unies, où on accuse, je ne sais pas, il y a un groupe de pays européens qui ont traîné la Russie, soi-disant, il est en train de faire une guerre d'éradication des Ukrainiens. Bon, c'est, vous voyez, le loup qui attaque la poule, enfin, qui l'attaque en justice, mais. Tout ce que l'Occident refuse, c'est justement ce que Rothschild ne veut pas. Qu'une partie du monde lui échappe au niveau de la monnaie, au niveau du pouvoir. Et s'il ne le veut pas, c'est la guerre. Et gare à vous si vous perdez la guerre, gare aux perdants. Amis de Radio Silence, pour la rentrée, c'est un peu lourd là. Je ne sais pas si vous allez suivre. Enfin, c'est un peu lourd, c'est un peu long, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Et pendant que nous sommes sur la rentrée scolaire, avec tout ça, sur le nouveau monde qu'on vous a dit, vous allez réévaluer votre avis et vos idées sur la religion, sur la politique en Russie, sur comment on triche les élections en Occident avant même qu'elle n'ait lieu, parce qu'en Afrique, on triche pendant, on triche avant, on trafique les dés, et si M. Trump fait l'objet tout d'un coup comme ça de raid brutal, franchement, qui peut imaginer qu'un président sortirait de sa présidence sans document? Faut pas exagérer. Donc, qu'il soit top secret ou je sais pas quoi, il y a des photocopies. Hein. Donc, tout ça, c'est juste un jeu électoral. Pour que le pouvoir reste bien démocrate, parce que le FBI va bien avec les démocrates, et les démocrates qui sont bien installés au cœur du système, que M. Trump appelle le marais, parce que c'est le système qui a été décrit, qui continue la logique de Rothschild. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbok, je vous dis à bientôt.